Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi 24 juillet. Un rassemblement devant les locaux de la métropole à 10h ce matin à l'initiative du collectif Jamais Sans Toi. Nous verrons pourquoi dans cette édition. Météo France affichait une vigilance orange aux orages cette nuit, des orages qui pourraient perdurer dans la journée. On reparle de la pollution au PFAS. Le site Arkema de Pierre Bénite recommande de ne pas consommer les fruits et légumes issus des jardins potagers qu'il possède. Comment faire en sorte que de plus en plus de personnes agissent en faveur des territoires et d'une société plus écologique et solidaire? C'est l'objectif d'Anciela. L'association propose en effet différents modules de formation visant à soutenir des structures dans leur action. Gros plan sur Chassio Climat, une association qui comporte 150 adhérents et qui met en œuvre des actions à l'échelle de la commune. Attention des perturbations sur les lignes C et B du métro. Et puis football, une nouvelle défaite pour l'Olympique Lyonnais en match de préparation.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un rassemblement est prévu devant les locaux de la métropole à 10h ce matin à l'initiative du collectif Jamais Sans Toi. Une cinquantaine de personnes occupent le gymnase Bellecombe depuis un mois, dont une trentaine d'enfants. Parmi les occupants, des personnes réfugiées, des familles et des femmes, tous ont investi les locaux faute de solutions de repli ou d'hébergement d'urgence. Le collectif réclame qu'un opérateur social agréé soit mandaté par la mairie pour assurer la gestion humanitaire du gymnase. Il réclame aussi au pouvoir public la réquisition de logements vacants. D'autres manifestations sont prévues demain mardi devant le siège de la direction départementale du travail à Villeurbanne et mercredi à 10h devant la mairie de Lyon. Météo France affichait une vigilance orange aux orages cette nuit entre 1h et 8h du matin. Conséquence du passage de ce front orageux, les températures baissent d'une dizaine de degrés ce lundi. On ne devrait pas dépasser les 26 degrés aujourd'hui à Lyon. De nouveaux orages moins violents devraient donner de fortes précipitations sur l'est de la région Auvergne-Rhône-Alpes en cours de journée. On parle de la pollution au PFAS. Le site Arkema de Pierre Bénite recommande de ne pas consommer les fruits et légumes issus des jardins potagers qu'il possède, et ce dans l'attente des résultats définitifs de l'évaluation des risques potentiels. Le principe de précaution est donc mis en avant. Les analyses montrent un fort taux de contamination des sols sur ce jardin potager situé rue du Brotillon. 60 locataires, pour l'essentiel des retraités d'Arkema, ainsi que des salariés et des personnes extérieures, cultivent un lopin de terre sur ce jardin partagé. Les dépassements se sont avérés nombreux, jusqu'à 25 fois la valeur repère sur les carottes, selon la préfecture, mais aussi des valeurs élevées sur les blettes, la salade et dans une moindre proportion sur les poireaux. Le 14 juin, un arrêté complémentaire a imposé de nouvelles investigations à l'industriel, notamment dans le potager, mais aussi sur les aires de jeu pour enfants, à proximité de l'usine.
Lyon Demain, idée en partage.
La crise écologique et climatique que traverse le monde rend nécessaire l'implication et l'engagement des citoyens. Il est indispensable de se réunir pour agir et être plus efficace. Une association permet d'interpeller les pouvoirs publics, les collectivités locales, les entreprises. Les principales associations environnementales sont bien connues. Dans notre région, on peut parler de la LPO ou de Greenpeace qui ont des antennes à Lyon. Plus local, Arthropologia, des espèces par million, Odysseus 3.1. Les citoyens sont également des forces d'interpellation sur des sujets hyper locaux, à l'échelle d'une ville, d'un quartier, voire d'une résidence. À Chassieux, le collectif Chassieux Climat s'est constitué en 2021 et s'est vite transformé en association, fort de quelques 150 adhérents, dont une vingtaine de membres particulièrement actifs. L'association travaille sur la thématique du réchauffement climatique et des actions à mettre en œuvre à l'échelle de la commune. Georges Meyer est membre du bureau de l'association Chassieux Climat.
C'est presque un village, c'est 10 000 habitants, on est presque dans la ruralité en partie, on est dans le rurbain comme on dit, puisqu'on est dans la couronne lyonnaise, mais avec encore deux maraîchers, un agriculteur, mais aussi Eurexpo, qui est le centre de congrès de Lyon, qui est beaucoup de béton et peu végétalisé, et aussi une des plus grandes zones industrielles de France. Nos axes, c'est un axe un peu thématique qui est la plantation, plantation d'arbres. On souhaiterait aussi travailler sur la question du photovoltaïque, peut-être avec une coopérative à venir ou quelque chose comme ça. Et puis plus largement, une action d'aiguillonnage des acteurs publics, aiguillonnage notamment de l'action municipale pour que la question climatique soit prise en compte dans la politique municipale, mais voilà, pas une action politique, une action associative. Et puis surtout aussi beaucoup une action de sensibilisation des habitants, travailler avec les différents acteurs, les entreprises, les habitants, les acteurs politiques, la métropole et la ville.
Votre stratégie, c'est d'être un aiguillon, mais c'est de ne pas arsenal. c'est quoi la différence?
D'abord, on a une vie autonome, hein, c'est-à-dire qu'on agit avec nos adhérents, on organise des fresques du climat, par exemple, on a organisé des ateliers bas carbone pour sensibiliser les habitants. Et puis, vis-à-vis de la municipalité, c'est un travail de vigie citoyenne, d'aiguillonnage, de proposition, mais aussi de critique. L'association a été intégrée dans un comité climat-environnement qui a été créé par la municipalité, qui fédère deux associations Chasseland et qui sont censées donner leur avis, être consultées. Alors parfois on est obligé de mettre l'épaule dans la porte, parfois ça se passe bien. Voilà, c'est ça, c'est de faire en sorte que dans les décisions municipales, dans la vie municipale, les questions climatiques soient prises en compte comme étant peut-être un guide de la décision, hein, et pas simplement accessoire.
Deux niveaux d'action, un niveau doux et puis un niveau un petit peu plus dur si ça se complique, si les élus ne sont pas à l'écoute.
C'est pas une action politique au sens politique partisane, c'est politique au sens citoyenne parce que c'est vivre dans son territoire, participer à la vie de son territoire, c'est politique, et parce que la question environnementale est une question politique, mais au sens large du terme. Hein, voilà, donc on n'est pas dans une stratégie d'opposition politique, c'est pas le sens de la démarche, c'est vraiment une action citoyenne, hein, c'est-à-dire agir à notre niveau, nous faire et pas que subir en tant que qu'être humain sur cette planète et en tant que citoyen de l'endroit où on vit, et puis faire en sorte que la municipalité en lien avec la métropole tienne compte. Par exemple, il y a un projet urbain de rénovation, enfin de construction de plusieurs centaines de logements à Chassieux. Le rôle de l'association, ça a été, avec certains de nos membres qui avaient des compétences, d'aller voir les plans, d'aller voir le PLU et d'essayer de discuter avec la municipalité pour leur faire des suggestions, des propositions d'amélioration sur la végétalisation, sur les matériaux utilisés, et puis d'être critique là où on trouvait qu'il y avait matière à être critique.
Georges Meyer, membre de l'association Chassieux Climat. Alors, comment constituer un collectif ou une association pour peser sur le débat public autour de l'urgence climatique? Anciela propose des formations, donner envie d'agir sur les enjeux écologiques. Lucille Perrin coordonne la pépinière d'initiatives au sein de l'association Anciela.
On crée toute une démarche autour de l'accompagnement de ces collectifs-là, leurs enjeux, à leurs actions spécifiques qu'ils mènent, à leur fonctionnement propre, parce que souvent ils ont une gouvernance où ils sont nombreux, ils mènent des actions en ultra-local, assez précises, ils ont des actions qui se ressemblent aussi pour certains, et donc on les accompagne à se créer, se structurer, se pérenniser, et toute autre chose dont ils auraient besoin.
Ah, c'est quoi le conseil, je dirais, pour monter un collectif quand on n'a pas l'habitude, là, comme ça, on se dit, tiens, on est 2, 3, 10.
Si déjà on est 2, 3, 10, on est déjà un collectif, donc on n'a plus besoin de le monter. Je dirais que c'est de commencer par une petite action qui nous parle, qui nous fait envie. Commencer toujours par l'action. Il y en a qui ont commencé par distribuer des stop pubs, il y en a qui ont commencé avec un ramassage de déchets, il y en a qui ont commencé par organiser une fresque du climat. Et en fait, ces petites actions-là, c'est une, et puis c'est deux, et puis c'est trois, et puis ça finit comme la coopérative La Transition qui monte son propre festival pour inciter les gens des Monts-d'Or et du Val-de-Saône à s'engager pour l'écologie et la solidarité. Donc en fait, commencer par quelque chose qui nous parle, qui nous fait envie, qui nous motive, en parler autour de soi, chez ses voisins, les parents de l'élève, d'élèves de l'école, voilà. Et après, petit à petit, ça va se nourrir par soi-même, quoi, quelque part.
Est-ce qu'il faut forcément partir d'une opposition, par exemple, à un projet ?
Non, il y a des collectifs qui naissent par opposition, mais non, il y a juste des collectifs qui naissent par envie de créer une dynamique autour de l'écologie sur leur lieu de vie.
S'investir, c'est donner du temps. Comment on fait pour ne pas décourager ceux qui se disent « ça va me prendre du temps en plus, les enfants, du travail et des vacances ?»
Déjà, dans beaucoup de collectifs, il y a des gens qui font plein de choses avec leurs enfants. Donc les ateliers sont très souvent accessibles aux enfants. Et c'est la force de monter quelque chose à beaucoup de personnes, en fait. C'est qu'il y a de la place, il y a de la distribution des charges, de la gestion de l'association en soi. Et puis, il y a de la place pour des engagements de « demain, il y a besoin d'un animateur pour une fresque du climat. T'es animateur, est-ce que tu veux bien animer la fresque du climat ?» Ça ne veut pas dire que la personne va avoir plus d'engagement que ça. On a besoin de quelqu'un pour aller acheter des sacs poubelles pour un ramassage de déchets. Est-ce que c'est OK ? En fait, c'est un engagement. C'est un engagement parce que ça aide un collectif à vivre et à exister. exister sur le territoire. Et pour autant, ça va prendre une heure, ça va prendre deux heures, une fois par mois, une fois tous les deux mois. Si toutes les assos arrivaient à trouver des personnes qui sont prêtes à donner, plein de personnes qui sont prêtes à donner deux, trois heures par mois, bah finalement, une personne, 10 personnes, 30 personnes, bah, au final, ça fait un cumul d'heures assez conséquent. Et donc, ça permet de mener des actions.
L'objectif dans tout ça, c'est de créer du lien.
Créer du lien, ouais, ça c'est clair. C'est de retrouver du lien à des endroits où il y en avait, où il y a plus forcément de prétexte de création de lien, ou alors le lien a du mal à se créer de lui-même pour X raisons. Mais c'est aussi pour porter l'écologie et la solidarité sur le devant de la scène. C'est-à-dire que c'est pas juste des assos de village, des assos, des comités des fêtes, etc., qui sont très bien, mais un collectif qui va mener des actions pour l'écologie, pour la solidarité, sur son lieu de vie, et qui va du coup permettre de porter ces questions-là plus au devant de la scène, auprès des institutions, auprès des citoyens, des habitants, voilà.
L'autre obstacle, c'est souvent aussi de dire il va falloir créer une association, donc ça veut dire un bureau, une assemblée générale. Tout ça, on peut l'éviter, ou est-ce qu'à un moment donné, il faut quand même créer une association?
Ça dépend sur quel territoire on a vocation à agir et ce qu'on a envie de mener. Il y a des collectifs qui ne se fédèrent jamais en association, parce que pour organiser un ramassage de déchets et une fresque du climat une fois de temps en temps, en effet, la paperasse est plus lourde que le bénéfice quelque part. Après, quand on va vouloir mener des actions en partenariat avec la municipalité ou avec d'autres assos, ou alors des actions où c'est quand même préférable d'avoir une assurance, bah là ça devient difficile de couper au montage d'une association, bah parce que c'est ce statut juridique officiel qui permet de créer des partenariats, qui permet d'avoir une assurance, qui permet d'avoir une banque aussi. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de collectifs qui se sentent obligés de créer une association pour pouvoir aller un tout petit peu plus loin dans leurs actions et ne pas être bloqués par cette question-là.
La question des subventions également impose le fait d'avoir une association, ou on voit par exemple dans les budgets participatifs qu'on peut aussi s'en passer quand même des fois.
Bah, alors, subventions, oui. Après, il y a des financements autres possibles. Il y a les budgets participatifs. Dans les quartiers politiques de la ville, notamment à Lyon, il y a les FIL, les FAL. Enfin, il y a plein d'autres financements qui sont orientés vers des personnes plutôt que des entités quelque part. Après, finalement, il y a beaucoup de collectifs qui n'ont pas ou très très peu de subventions, parce que toutes les actions qu'ils mènent finalement nécessitent très peu de dépenses. Ils vont peut-être avoir une petite aide de leur municipalité, ou finalement les adhésions, les dons des gens du village vont parfois suffire en fait. Il n'y a pas forcément besoin des subventions, parce que se lancer dans le processus des subventions, c'est encore une autre étape, je dirais. Ça demande de remplir le dossier, constituer le dossier, etc. Et c'est autre chose, c'est encore l'étape après l'association. Donc finalement, je dirais qu'il y a beaucoup de collectifs qui fonctionnent sans subvention.
Est-ce qu'il faut créer un collectif, ou est-ce qu'il faut essayer d'en trouver un qui existe déjà, par exemple, se rattacher à une structure déjà existante? Vous, Antiela, vous avez en quelque sorte un annuaire, c'est ça, des collectifs?
Ouais. On a notre guide des associations dans lesquelles on peut s'engager sur le territoire lyonnais très large, dans lesquelles on peut devenir bénévole et agir sur l'écologie ou la solidarité. Et il y a une partie sur les collectifs. S'il y a une association sur le lieu où on vit, bah, le mieux, c'est encore de la rejoindre, si on se sent en accord avec cette association, évidemment, mais parce que toutes les associations manquent de force vive, donc chaque nouvelle personne est bonne à prendre, même si c'est pour très peu de temps. Après, si ça n'existe pas, ou qu'il n'y a pas d'association qui porte les valeurs qu'on a envie de transmettre, bah, ça peut être d'en créer un nouveau. Je dirais que c'est propre à chaque territoire, propre à chaque personne, mais il ne faut pas créer une association pour créer une association. Ça se trouve, il y a d'autres associations là où on vit qui auraient envie d'avoir des nouvelles têtes, des nouvelles énergies, et qui repartiraient de plus belle. Voilà.
Lucille Perrin, qui coordonne la pépinière d'initiatives au sein d'Anciela. Sachez que l'association propose différents modules visant à soutenir les structures dans leur action, avec un seul objectif: que de plus en plus de personnes agissent en faveur de territoires et d'une société plus écologique et solidaire. Rendez-vous sur anciela.info. Attention, la ligne C circulera uniquement de la Croix-Rousse à Cuire durant 3 semaines, soit jusqu'au 12 août. Les TCL conseillent d'emprunter l'alibus C13, desservant les stations Cuire, Hénon, Croix-Rousse et Hôtel de Ville, Le Pradel. Cette ligne C13 est d'ailleurs renforcée pour l'occasion. La ligne B du métro sera aussi à l'arrêt toute la soirée de ce lundi à compter de 21h15, afin de poursuivre son extension jusqu'à Saint-Genis-Laval Hôpital. Des bus relais de Charpennes à Gare d'Oulin sont prévus toutes les 10 minutes. Et puis notez que ce métro B sera surtout fermé pendant 3 semaines entières, du 31 juillet au 18 août. Le magasin bio La Vie Claire, situé en bordure de la Nationale 6 à Saint-Bonnet-de-Mur, a fermé définitivement ses portes samedi soir, et ce après 8 ans d'exploitation. L'enseigne accuse une baisse de plus de 30% de son chiffre d'affaires. L'inflation met en difficulté de nombreuses enseignes bio. Si la clientèle historique est toujours là, les primo-accédants du bio, eux, n'en ont plus les moyens. Deux salariés basés à Saint-Bonnet ont rejoint le magasin de Chaponnet, qui appartient au même franchisé. Un mot de football pour conclure. L'Olympique lyonnais s'incline à Molenbeek en match de préparation. Ce dimanche en Belgique, les Lyonnais ont concédé une deuxième défaite de rang sans avoir réussi à se procurer de réelles occasions dans le jeu. Les Lyonnais ont été battus 1-0 sous les yeux de John Textor, propriétaire des deux clubs. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition. Excellente journée.